est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Édito du lundi 3 avril 2023 du Monde Merveilleux d'après. Nous avons déjà abordé le sport comme vecteur de l'imbécilité dans la société civile et les Jeux Olympiques de 2024 vont aussi impacter la vie sociale et le quotidien des riverains où sera implanté le parc sportif. Nous recevons ce soir le collectif anti-olympique. C'est bon ? Nora, Abdou, bonjour. Ils sont timides. Pour nous faire partager leur point de vue sur le saccage de l'urbanisme généré par la préparation de ces Jeux Olympiques 2024 et son impact sur le travail. Voilà, du pain des Jeux, offrait l'Empire romain à ses sujets, les pains c'est dans nos rues qu'ils sont distribués en ce moment. Les Jeux, il faudra patienter jusqu'en 2024, mais financer à nos frais. Voilà. Vous êtes à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail et illico presto, la nouvelle chronique ponctuelle, l'almanach culturel de l'actualité brûlante.
Dès qu'ils ont flic, sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
On ne regrette pas sa soirée.
Vous savez, quand il est agent, c'est le plus charmant des hommes, avec même de l'éducation.
Et instruit, capable de causer tout.
Voilà, ça t'a plu ? Un nouveau générique. C'est bon. Voilà, donc... chers auditeurs et chères auditrices... Il ne nous aura pas échappé qu'en ce moment, de vastes mouvements de contestation sociale sont particulièrement actifs dans la réforme des retraites d'abord, mais c'est aussi une contestation politique contre une perception de l'institution démocratique devenue obsolète et notamment de l'application de l'article 49.3 de la Constitution. Alors pour nous, anarcho-syndicalistes, révolutionnaires, l'État démocratique bourgeois, ce n'est qu'une forme de démocratie parmi d'autres. Nous lui préférons la démocratie directe. Cette option n'est pas retenue par tous ceux qui vivent comme des parasites, le de l'autoritarisme étatique et du libéralisme économique. Voilà, petite introduction. Donc pour initier cette nouvelle chronique, qu'on n'a absolument pas préparée.
Non, mais oui, surtout moi, mais je peux faire quand même.
on va faire ce qu'on peut.
Premier point de la chronique, c'est un état des lieux, c'est-à-dire Sainte-Soline, la guerre de l'eau.
Eh oui, un petit peu comme dans Avatar. Là, c'est la voie de l'eau, mais ils sont habillés en bleu aussi, je crois que vous avez remarqué.
C'est pas le même bleu.
Voilà, en fait, il y a eu pas mal de... Vous écoutez la radio, Nora et Abdou, la télé, regardez, BFM, tout ça.
Ah, bien
sûr. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup d'images qui circulent, et surtout alors, d'images de violence et de propos qui sont tenus par les tenants du pouvoir, des médias, qui dénoncent la violence. Mais la violence de ceux qui luttent. Une extrême violence, de l'ultra-gauche, j'ai entendu aussi anarchistes, des casseurs, des black blocs, des punks à chiens.
En fait, tout ce qui... Tout le panel de ce qu'ils rejettent, en fait, de ce qui, pour eux, vit en marge de, du progrès et de la raison.
Voilà. Alors moi, j'ai rien contre les personnes qui manifestent, qui luttent, et je les appelle pas des casseurs. C'est un petit peu ça aussi l'objet de cette chronique, c'est de démonter un petit peu le discours discriminatoire. Bon, il est déjà fait un petit peu, beaucoup, alors par l'image sur les réseaux sociaux. Et on avait invité notamment un reporter indépendant qui s'est pris une grenade dans le genou, je vous informe, voilà, Adrien. Donc pendant 2 mois, elle va être en ITT, comment ça
fait ? Oui.
Voilà. Donc,
Sur l'événement lui-même qui a déclenché cette première chronique à CAB, pour la résumer, 25-26 mars, donc le week-end dernier, le week-end juste avant, voilà. Donc 6000 opposants se sont présentés pour essayer de démonter ou d'empêcher le fonctionnement, en tout cas, d'une méga bassine. Hein. Donc c'est une retenue d'eau faite par une douzaine d'agriculteurs, de gros agriculteurs, hein, d'agro-industriels plutôt, qui ont besoin de cette eau pour arroser des cultures d'exportation pour l'essentiel. Et qui, soit pour nourrir le bétail, soit pour l'élevage de poulets. Donc, gros consommateurs d'eau, hein, notamment le maïs dans la région. Bien, en face, vous avez 3000 policiers qui ont été mobilisés. Donc, déjà, le rapport, c'est de.
C'est un pour deux.
Un pour deux. Ça donne aussi le rapport de force initial. Et des policiers armés jusqu'aux dents, hein, ça, ils ne sont pas simplement là pour conserver l'ordre public, hein, gardien de la paix publique, hein, alors, la paix était menacée, c'est encore une autre question, et ils se sont opposés violemment au passage des manifestants l'objet de leur...
Ouais, il suffirait que la police laisse passer pour qu'il n'y ait pas de casse, hein.
Il est même pas certain d'ailleurs que c'est essentiellement les pompes, hein, qui sont fragiles. La bassine en elle-même, on peut rien y faire. Hein. Il faut qu'elle est creusée, si elle est bétonnée.
Elle aurait pu la reboucher.
Oui, la reboucher avec des pelles. Enfin bon, ça passe sans. L'idée, c'était surtout de démonter tout ce qui était d'ordre mécanique et de pompage, quoi. Donc voilà, donc ça n'a pas pu être fait. Alors évidemment, la manifestation était interdite. Ce qui a donné... Alors ça, c'est aussi une façon pour le pouvoir en place de donner un argument supplémentaire sur la légitimité de la violence policière. Outre le fait que ce sont des représentants de l'État, missionnés par l'État via le préfet pour faire régner un ordre... particulier, ils ont aussi cette interdiction qui vient ajouter à leur légitimité. Ça, c'est pour le discours de l'État. Quoi.
Alors, sur les nombres de militants, c'est pas 6000, hein, qu'il y avait. Hein. C'est entre 25 et 30 000, quand même. Hein.
Pas bon, alors c'est une erreur.
Bah, c'est ce qu'ont annoncé les pouvoirs publics. Mmh. C'est comme quand on fait des manifs dans la rue... avec nos camarades de la CGT, de la CFDT surtout, c'est toujours minimisé.
Donc mais... autour aussi, c'est 35 000.
Ouais. Ouais. C'est ce que nous dit la Confédération Paysanne, c'est ce que disent tout le monde. Et voilà.
Alors, le problème se pose, ça c'est la présentation des éléments factuels. Pourquoi était-il là ? En fait, ça répond à... Techniquement, les bassines ne répondent à rien. Si ce n'est à l'emprise territoriale d'une minorité d'agriculteurs qui n'ont plus rien à voir avec le monde paysan, hein, faut le savoir, hein, qui ne produisent que pour l'industrie.
C'est 6%, ouais. Ils représentent 6%.
C'est ça, ouais. Donc on n'est pas dans le monde paysan, très clairement. On n'est même pas dans le monde de l'agriculture classique, où, tant bien que mal, le paysan a un peu de difficulté à vivre, notamment lorsque il doit faire face à la distribution moderne et aux centrales d'achat qui le mettent un peu sur la paille.
Voilà. Bon, on va pas trop s'étaler non plus parce que c'est pas le but. Quand même, il y a sur la polémique aussi de l'intervention des secours. On va essayer de faire rapide. Il y a le discours effectivement du ministre de l'Intérieur. Ouais. Des sous-préfets qui disent qu'ils n'ont rien empêché. Mmh. Il semblerait quand même que les secours qui arrivent tard, comme ça, plus d'une heure, voire trois heures, je crois, c'est quand même. Il y a quand même eu quelque chose. Surtout quand on a entendu des enregistrements faits par la LDH ou des médics appellent le SAMU. Et le SAMU.
Tard de venir.
Et fait savoir surtout qu'on leur interdit de passer. Mmh. Alors c'est toujours, c'est parce que c'est pas sécurisé. Mmh. Enfin bon.
En même temps, c'est pas sécurisé quand on balance des, je sais pas combien de milliers de grenades, de projectiles sur les manifestants. C'est sûr que c'est.
Alors sur des manifestants qui sont appelés aussi éco-terroristes par le ministre de l'Intérieur. C'est intéressant comme terminologie parce que c'est vraiment. Discréditer, criminaliser encore plus les militants.
Puis on n'est plus sur l'extrême gauche, on est sur l'ultra gauche.
On est ultra gauche.
Ça, c'est purement électoraliste hein, comme démarche. Si on peut essayer de capter quelques voix de la NUPES.
Et malheureusement, les médias ne font pas grand chose pour.
Non, d'ailleurs, j'ai apporté.
Pour restituer un petit peu la réalité des faits. Alors, évidemment, il y a eu des.
On fait dans le sensationnel.
Ça, c'est une belle image, ça. Voilà. Ça me plaît.
On fait dans le sensationnel. Mais alors, quel que soit, c'est des scènes de guerre. Ce que montre la presse, le magazine, c'est scènes de guerre.
C'est des scènes de guerre. Mais j'ai vu, alors, si vous allez, chers auditeurs, Nora, Abdou, si vous allez sur les. Comme vous êtes jeunes. Allez-vous sur Twitter, des trucs comme ça, voir les images, effectivement. Moi, ce que j'ai vu, c'est des militants qui approchent, sur lesquels on jette des gaz lacrymogènes, et qu'on empêche de passer. Donc, voilà. On va peut-être pas trop s'éterniser sur la chronique. Je sais pas si tu voulais encore dire quelques mots.
Il y a plein de trucs à dire, mais là,
on va parler de.
Il y a l'association Soulèvement de la Terre.
Ouais.
Il y avait un recours du ministre pour la dissoudre.
Dissoudre, oui.
Ça fait aussi partie de l'arsenal juridique classique, mais ça s'est fait très vite, quoi. Très, très vite. Là aussi, c'est une volonté de tout arrêter.
Alors, pour ceux qui ne seraient pas habitués à ces mouvements sociaux et puis qui ne connaissent pas les soulèvements de la terre, ce ne sont pas des ultra-gauchistes, il peut y en avoir, comme il y en a partout. Ce ne sont pas des casseurs, ce n'est pas un regroupement de voyous. Les voyous, ils sont en bleu, ils sont habillés en Playmobil. Pardon. Non, c'est un regroupement de structures, de collectifs.
Et d'individus.
Et les syndicats CNT qui veulent se greffer justement pour les soutenir.
Et, parfois de personnes assez. Pour avoir regardé la liste des soutiens, il y a des personnes assez. A priori, je n'imaginais pas là, mais. Donc à un moment donné, oui, ça agace. Ça agace.
Alors bon, on va s'arrêter là. On a quand même on souhaite un bon rétablissement à tous ceux qui se sont pris plein la tronche. Et toute mon empathie, en tout cas, à Serge, qui est apparemment toujours dans le coma. Et qui, malgré qu'il soit affiché S, puisque c'est ça aussi pour discréditer le gouvernement, le gouvernement pour discréditer les militants, font ressortir des dossiers judiciaires. Qui est quand même assez honteux. Comme si, en fait, ça. Ce qui lui est arrivé, c'était justifié par par le fait qu'il soit fiché S. Nous, ça ne nous dérange pas, les gens fichés S. Bah, moi non. Moi je vous le dis. Quand on sera tous fichés S, ça va bientôt venir d'ailleurs. Et on va s'arrêter là, ça va bientôt venir parce que avec les lois, la loi olympique, on va tous être photographiés, filmés, enregistrés, fichés. Hein, Nora va nous dire tout ça, Abdou aussi. On va passer une petite musique et puis on va attaquer dans le vif du sujet après avec nos camarades de...
Une petite chanson pour les trous de balle qu'on appelle Politica, qui ose nous taxer de balles pour qu'on vote pour eux ces clochards. Les menteurs, les fainéants, les repris de justice, on les colle au gouvernement, mais que fait la police? Ils se pavanent dans la rue, sans vergogne et sans crainte, ils ont tellement de casseroles au cul, même les casseroles elles portent plainte. Ils se ruent sur le pouvoir, comme des mouches sur une mer, mettraient tout ça dans un pressoir, et ça ferait de l'huile de grosse merde. Voter pour l'enculé, pour pas que le connard passe, c'est un peu comme germer pour camoufler la crasse, qu'il soit de droite ou de travers. La mettre profond et nous les laisse faire comme des connards de moutons. Regardez-les, nos députés sont réactifs comme des ficus, savent même pas où est l'Assemblée. Même un chômeur il travaille plus. Ils font l'Assemblée buissonnière et quand ils pointent leur tête à claque, ces espèces de facochères, prêts ou pis comme des gros sacs. L'écologie, ben parlons-en, ils entretiennent la fonte des glaces, et que ça coûte cher au réchauffement. Un trou du cul qui se déplace, ils nous balancent des escrocs pour s'occuper de notre intérieur. Même les bidonvilles de Rio sont plus clean que ces voleurs. Voter pour l'enculé, pour pas que le connard passe, c'est un peu comme gerber pour camoufler la classe. Qu'ils soient de droite ou de travers, ils nous la mettent profond et nous les laissent faire comme des connards de moutons. Ces guignols, mais bah c'est nous qui les payons. Ils n'ont jamais fait un plein de gazole, ils connaissent pas le prix du pognon. Si t'es pourri et sans manière, que t'as le cul d'une pine d'huître, que tu volerais même ta grand-mère, ben tu pourrais finir ministre. Des casiers plus remplis que les fesses de Brigitte Lay. Ils se regardent le nombril, s'ils pouvaient ils se suceraient. Là la gueule de nos décideurs, un amas de pédophiles, de loupards et de violeurs. Il nous manque plus qu'un nécrophile. Chanter les enculés, ben ça m'a fait mal au fion. Et ces gros enfoirés sont dégueulasses, c'est ma chanson. Pour pas qu'elles soient périmées, j'ai pas cité leur nom, vu qu'on remplace les enculés tous les 5 ans par des autres cons. La guillotine est rouillée, quel joyeux sacerdoce. En plus d'avoir la tête coupée, bah ils choqueront le tétanos. Ça c'est parler de ces fils de pute. Moi j'arrête ma chanson, tant pis y'aura pas de chute. De mort vache et mort au con.
Si, c'est une belle chose ça.
Voilà, c'était Maggie Boll qui interprétait Les Enculés. Excusez-moi, hein, c'est pas moi, hein, c'est l'auteur. Voilà, oui. Donc on va quand même faire les présentations un petit peu plus. On a juste évoqué qu'on avait deux invités, Abdou et Nora. Je vais dans l'inverse, tout à l'heure j'ai fait Nora et Abdou. Vous voulez vous présenter? Vous faites partie du collectif Saccage 2024?
Oui, ben, bonsoir du coup, Nora, je suis membre du collectif Saccage 2024.
Vas-y, vas-y. En plus d'années,
et j'ai pas grand chose d'autre à dire pour me présenter.
Alors c'est quoi Saccage 2024?
Et tu es accompagné de Abdou?
Ouais, bonjour à tout le monde. Bon, pour me présenter, c'est Abdou. Et voilà, membre de Saccage depuis quelque temps. Et franchement, on est là pour
Pour foutre le bordel. Ouais.
Pour discuter et pour échanger quand même. Voilà de ce qui nous, voilà de ce qui nous regarde, parce que c'est notre cité et donc du coup c'est ce qui nous a poussé à répondre à votre voilà invitation et on est là.
Ouais, merci d'être venu.
Merci.
Voilà. Merci de nous avoir invités.
Alors qu'est-ce que c'est Saccage 2024? Dites-nous.
Ouais. Alors Saccage 2024, c'est un collectif anti-olympique. C'est au départ en fait un regroupement de plusieurs collectifs qui luttaient contre des projets, surtout en fait au début, différentes constructions des Jeux Olympiques. Et en 2020, il y a eu l'envie de différents voilà, groupes qui existaient déjà, plus d'autres personnes, de créer une espèce de, voilà, de collectif de collectifs pour lutter contre les JO. Il y a eu plusieurs moments de lutte depuis, mais c'est ça au départ. Donc, en fait, pourquoi ça s'est créé ? Donc, il y a beaucoup de raisons de lutter contre l'olympisme. En fait, l'idée, c'est que on est en train de voir autour de chez nous des transformations urbaines qui sont vraiment énormes, des grosses constructions qui soit détruisent des terres, des jardins ouvriers, des parcs publics, qui privatisent aussi des espaces qui étaient auparavant publics, qui créent des structures qui n'ont rien à voir avec les besoins des habitants, habitantes, avec des tailles qui sont démesurées. Je parle notamment de, par exemple, des piscines olympiques qui on va avoir un coût de maintenance énorme qui ne pourront pas être à un prix d'entrée accessible aux populations qui habitent sur place et qui sont toujours aussi accompagnées de constructions autour qui sont au minimum de logements sociaux. Enfin voilà, c'est des projets de gentrification qui accompagnent aussi le projet du Grand Paris avec des investissements financiers énormes, etc. Mais c'est pas que ça. Les JO, c'est aussi des conditions de chantier, enfin de travail sur les chantiers qui sont particulièrement à risque. C'est aussi des valeurs olympiques pour lesquelles,
On ne partage pas toujours.
Et c'est aussi une montée sécuritaire. C'est un prétexte à la montée sécuritaire sur tout le territoire français. Ça ne concerne pas que la Seine-Saint-Denis, ni que le territoire parisien. Voilà. Et en fait, l'objectif du coup de Saccage 2024, c'est qu'il n'y ait plus de Jeux Olympiques. Voilà, ni ici ni ailleurs, c'est pas que pour que ce soit renvoyé à d'autres territoires. Et pour ça, on est aussi en lien avec des collectifs qui luttent dans d'autres endroits du monde.
Oui, parce que en fait, c'est pas vous qui l'avez inventé, vous êtes approprié une idée qui avait déjà germé, éclos au Japon, semble-t-il. Peut-être même avant, il y a quelque chose avant.
L'anti-olympisme.
Ouais, non,
ça fait longtemps que ça fait. Enfin, il y a toujours eu des luttes contre.
Ah, moi, je suis jeune, alors je l'ai pas.
À chaque édition des JO, il y a eu des personnes qui ont lutté contre un des aspects au moins de l'arrivée des JO chez eux.
De toute façon, oui, ça va. Faut que ça se paye, tout ça. Hein. Il y a d'énormes investissements, tu dis. Mais c'est nous qui allons en partie les financer, quand même. Nous, les contribuables, non?
Oui.
C'est pas des philanthropes qui donnent.
Ouais, c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait.
Exprime-toi.
Je suis pas bien. L'olympisme, oui, bon, on le finance depuis longtemps. Hein. Oui. On a eu peut-être une idée là pour la piscine olympique, mais ça n'a pas fonctionné à Sainte-Soline, donc c'est con. Ouais, c'est... Non, on faisait une pierre deux coups, quoi. On les faisait barboter. L'anti-olympisme est quasiment né à l'époque où les Jeux Olympiques sont devenus une organisation, non pas de débrouille, de joyeux démerdards, quoi, mais organisée et on pouvait y accéder qu'en ayant du pognon. Quoi. Et c'est là qu'est parti, en fait, l'anti-olympisme, sur l'idée qu'il y a une toute petite minorité des penseurs de l'olympisme originel, du néo-olympisme hein, originel, qui s'est désolidarisé, j'y arrivais, de Pierre de Coubertin en disant, bah non, nous, à partir du moment où on sait plus, chacun se débrouille et puis on fait ça à la bonne franquette, ou la bonne grequette, ou ce que tu veux, voilà, bah ça nous intéresse plus parce qu'on va rapidement, et vous avez deviné juste, tomber dans un système qui est une machine Afrique, quoi, où c'est l'argent qui déterminera le médaillé, qui déterminera la meilleure installation, donc le choix des villes où on va pouvoir qu'on sera en compétition, etc. Donc voilà, ça, c'est, et puis petit à petit ça s'est développé, mais on n'était pas arrivé au stade où aujourd'hui on prend conscience, notamment que les aberrations, chez les Russes, il y a eu Sochi, où c'était du n'importe quoi, enfin l'organisation. C'est calé aussi avec la Coupe du Monde de football, parce que c'est tous les deux ans il y a une de ces deux merdes qui vient nous polluer la vie. Donc le football, là je ne sais plus dans quel pays, ça avait lieu, c'est une aberration aussi, où ça dépense énormément d'énergie, où il y a des conditions d'exploitation des travailleurs absolument honteuses. Avec des milliers de morts, ou des centaines de morts, je ne sais plus. Milliers de morts. Ouais, c'est le même principe, quoi. Alors, l'anti-olympisme, bah, il trouve son germe aussi dans cette guerre à la connerie, quoi. Le sport, c'est pas bien, de toute façon. Moi, j'ai arrêté, ça fait longtemps.
Moi aussi, ça se voit.
Ouais, pfff.
Bah, vas-y, Abdou.
En fait, les Jeux Olympiques, la plupart, ce qui a été conçu pour ça, et maintenant, à nos jours, ce n'est plus les mêmes raisons, quoi. Parce que là, il y a un bloc de personnes qui en profitent, et voilà, les pays d'organisateurs et tout, ils n'ont que les recettes de billets ou les personnes qui viennent découvrir les activités. Nous, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs à essayer de mettre cette palier là pour dire non à cette fameuse structuration. Donc nous, on se bat pour non pas parce qu'on est contre les IO, mais c'est la manière.
Non, c'est fait. Donc c'est...
Ouais. C'est le processus, en fait, qui nous pose problème et qui doit poser problème tout état de droit. Parce qu'on ne peut pas accepter des situations comme ça et qu'il n'y a que des personnes qui sont dans leur coin, c'est eux qui mangent la tarte à la crème et nous laisser la merde après chez nous. Et ça, c'est à l'encontre de tout, quoi. Donc, déjà, avec la déforestation qu'on a comme impact, et voilà, on va construire, d'accord, c'est bien beau les édifices et tout, mais quand même il va falloir aussi penser à sa population, parce que les populations sont souveraines, en fait. Donc
ouais, c'est ce qui se dit, je suis pas convaincu. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des... Alors, les Jeux Olympiques ont construit des infrastructures qui servent, mais en fait, après, une fois que les Jeux Olympiques sont passés, et qu'on passe à une autre ville, parce qu'en fait, c'est un pays qui accueille, mais ça pourrait être toujours dans la même ville. Donc, du coup, quand on a fait une piscine, on utilise toujours la même. Mais non, il faut que ça change à chaque fois de ville. Donc, en fin de compte, il n'y aura bientôt plus, en France, que des piscines olympiques et des stades de foot. Puis dans les autres pays, pareil. Hein ? C'est qu'on va l'habiter, nous.
Je sais pas.
Dans des tentes sur les terrains de foot, on va se faire virer. Ouais. Non, ça te fait pas rire. Non, mais oui, ça pose un problème quand même, c'est de toutes ces constructions à chaque fois, parce qu'en fin de compte, ça ne resserre pas, ou très peu, ou ça va servir, je crois que c'est, tu me diras si je me trompe, hein, c'est ce que j'ai compris de ce que tu disais, la piscine olympique, une fois qu'elle aura eu son usage olympique, après elle va servir aux gens du quartier, ils vont sans doute changer, ce sera peut-être plus les mêmes, parce que ça gentrifie, donc ça aura peut-être des personnes plus aisées, et c'est eux, en fait, surtout, qui vont en profiter.
Ouais,
donc ça va profiter qu'aux riches, en fait.
Oui, pour clarifier sur les constructions de Paris 2024, parce que c'est assez différent aussi dans le temps. Enfin, là, le gros discours pour Paris 2024, c'est qu'il n'y aura presque aucune nouvelle construction, que tout sera réutilisé, contrairement à toutes les autres, tous les autres JO avant. Donc il y a tout un discours là-dessus de la part de la maire de Paris, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, les constructions, la plupart des constructions ne sont pas à Paris, mais elles sont en Seine-Saint-Denis. En fait, ça s'appelle des JO de Seine-Saint-Denis. En réalité, il y a une dizaine de piscines d'entraînement des JO. Il y a une piscine olympique. Il y a un village olympique qui est énorme, qui est entre trois villes, Saint-Ouen, Saint-Denis et Saint-Denis. Il y a un village des médias qui est sur le parc de la Courneuve, entre Duny et la Courneuve. Il y a aussi des constructions en train d'être en cours à Marseille, qui va accueillir les épreuves de voile, et à Tahiti qui va accueillir les épreuves de surf. Et c'est des énormes aménagements, en fait. Et après, il y a le risque, évidemment, que ça ne serve plus après, comme ça a été le cas pour, par exemple, Athènes. Il y a encore plein de photos là-dessus, même Grenoble. Mais il y a aussi, en fait, c'est plus probable pour Paris que ces piscines ou ces infrastructures. Ah, j'ai oublié Arena, le stade Arena 2, Arena Adidas à Porte de la Chapelle aussi. En gros, ces énormes infrastructures, elles vont effectivement servir aux nouvelles populations autour de là où elles vont être construites, parce qu'elles sont en train de déplacer, en fait, des populations, et avec des prix qui vont, ça va être, donc c'est de maintenance publique et d'exploitation privée pour la plupart de ces constructions pour la suite, et donc des prix qui vont, comme ça a pu l'être ailleurs, comme à Londres, augmenter au fur et à mesure des années, parce que c'est énorme. D'ailleurs, il faudra refaire des travaux après les JO pour tous les immeubles qui vont être construits, pour toutes les piscines. Il faudra les adapter
voilà,
au fait que des enfants puissent y accéder, etc. Donc ça va coûter énormément d'argent au public, déjà, et après c'est des coûts de maintenance énormes pour une ville. Il y a des villes qui sont toujours pas remises 20 ans après les JO de ces coûts de maintenance, et donc les prix, en fait, vont augmenter petit à petit, et plus personne va pouvoir y accéder. C'est pas du tout des prix de piscine de proximité comme ça peut être le cas aujourd'hui, puisque la taille n'est pas adaptée, en fait.
Alors, si j'ai bien compris de ce que disait Abdou, c'est qu'en fin de compte, pendant la construction, là, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches, et puis après, pour réadapter ces locaux, ces lieux, il va falloir qu'on sorte l'argent de nos poches, contribuables.
On a déjà sorti de l'argent.
Alors, on a déjà sorti, mais ça va encore. Il y a ceux qui s'engraissent avec ce qu'on a déjà sorti, et puis là, il va quand même falloir financer tout ça, tous ces travaux. Enfin bon, même si c'est déjà prévu.
En plus aussi, si on se focalise aussi sur les caméras qu'ils veulent injecter aussi, ça aussi, ça bouffe beaucoup d'argent. Parce que
et d'énergie aussi. Les
caméras thermiques, je ne sais pas. Mais là, ça demande des budgets franchement lourds, quoi. Lourd pour le contribuable français, donc du coup ça va.
Ça c'est dans le cadre de la loi.
Les caméras thermiques.
La nouvelle loi olympique, là, sur le.
Oui, la loi olympique 2.
Oui, voilà.
Oui.
Ah, mais ça c'est aussi. Oui, donc c'est dans ce cadre-là que ça a été mis en place. Alors, donc c'est... la loi est passée.
Oui.
Et en fait, c'est ni plus ni moins que du fichage, quand même, du contrôle, en fait.
En fait, il y a plusieurs choses. Du coup, il y a augmentation des caméras de surveillance. Ça, c'est au-delà de la loi olympique 2. Il y a une politique d'augmentation de la présence policière, des caméras de surveillance autour des sites olympiques. Darmanin parlait de 15 000 caméras de surveillance en plus en Ile-de-France pour les JO. Et il y a aussi, par exemple, le plan zéro délinquance qui augmente le chiffre que doit atteindre la police pour de contrôle policier de la délinquance en Seine-Saint-Denis. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a, en plus de ça, justement, dernièrement, il y a eu la loi Olympique 2. Celle-là, c'est pas dedans, il n'y a pas l'augmentation du nombre de caméras de surveillance, mais par contre, il y a l'autorisation de ce qu'ils appellent l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, donc VSA. En fait, c'est de l'intelligence artificielle mise dans les caméras et dans les drones. C'est la première fois que c'est autorisé en Europe. En fait, c'est en gros d'autoriser la police a utilisé un algorithme qui va détecter ce qu'ils appellent des comportements anormaux. Donc, par exemple, des regroupements anormaux dans la rue, loin d'un arrêt de bus ou quelque chose comme ça. Des personnes qui restent statiques, donc ça touche aussi les personnes sans abri. Ça vise aussi tout ce qui est dépassement de lignes imaginaires. Donc, on peut imaginer pour protéger la propriété privée, de mettre des lignes imaginaires. Et quand elles sont dépassées, ça alerte, en fait, un centre de surveillance urbain qui va ensuite, donc où il y a des vigiles qui vont ensuite appeler la police, où il y a aussi des alertes qui appellent directement le passage de la police. Enfin, et donc ça vient d'être voté là il y a 10 jours. Massivement, ça a été voté. Et donc, on va avoir des caméras à intelligence artificielle sur tout le territoire français. Et évidemment, c'est jamais qu'une expérimentation. Ça, pour d'autres méga événements sportifs comme les JO, ça reste toujours après, puisqu'il y a un investissement technique et financier énorme, et qu'il n'y a aucun intérêt pour les politiques de les enlever, évidemment, après les JO.
Bah, je suis content d'apprendre qu'on est des pionniers quand même.
La France. Soyons clairs.
Mais ça touche tout le territoire français.
Ouais, ouais.
C'est autorisé partout.
Au début, tu l'expérimentes à un endroit. Et est-ce que c'est pas aussi, justement, ils profitent pas aussi de toutes ces projets de surveillance? Est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'il y a eu le fiasco de mai 2022 au Stade de France, où il y a eu des gazages de supporters ou de gens qui allaient, oui, de personnes qui allaient assister au match de foot là? Oui, non, c'est...
Oh, non.
Ils ne profitent pas justement le fait qu'il y ait eu ça pour justifier qu'il y ait plus de caméras.
Nous, on le prend comme contrainte de liberté, en fait. Voilà, et ça ne rime pas avec les vertus du pays. Le pays, quoi qu'on puisse dire, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc si toutefois on regarde tout ce qu'on fait et on nous impose des choses qui sont en facette, donc ça va faire mousse pour tout un chacun, en fait. Donc on est plus libre de nos propres actes.
Mais...
parce qu'on est surveillé, donc du coup, et là où tu passes, bon, il y a, voilà, il y a, y a quelque chose qui te regarde, donc du coup, et au finis, tu peux pas...
Moi, je serais ministre de l'Intérieur, je remettrais même les dérogations, les attestations de déplacement. Hein, comme ça, t'as un drone, paf, tu montes ton truc, il y a le QR code qui, oui, t'as le droit de passer, toi. Non, ça va. J'ai rien compris. Lui.
Non, mais j'ai rien compris, mais tu sais, j'ai compris qu'il va falloir que j'apprenne à boire en marchant. Ça va être compliqué.
Compliqué. Ouais, là, c'est nous qui n'avons pas compris. Mais bon, c'est pas grave.
Non, bah, si on s'arrête.
C'est une mission de fou. Hein,
si on s'arrête, ben, on est fiché. C'est ce que tu as dit. Hein, fallait pas
si
s'arrêter.
Si tu t'arrêtes, t'es fiché. Mais si tu t'arrêtes pas, t'es fiché aussi.
Je vais marcher, boire seul en plus. C'est d'abord mes habitudes. Et puis voilà quoi.
Non, en fait, tout va être prétexte à pouvoir être surveillé, en fait.
Oui, après, pour répondre sur le match là, à Saint-Denis. En 2022, c'était déjà prévu avant, hein, tout cet arsenal sécuritaire. Après, effectivement, dans la justification, il y a eu l'utilisation de « Ah ben, on n'était pas prêt, il faut qu'on le soit pour 2024 ». Mais en fait, c'est vraiment un bordel, en fait. Mais vraiment, ils sont en manque de personnel de sécurité. Ils viennent de créer une nouvelle formation pour les jeunes, pour une formation accélérée pour devenir agent de sécurité, parce qu'ils n'en ont pas assez pour les JO. Donc là, ne pas autoriser les festivals de mai à septembre dans toute la France en 2024, parce que, du coup, toute la police sera mobilisée sur des événements des JO. Et en fait, ils pensent déjà à utiliser l'armée pendant les JO. Enfin, ça va être un grand n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de saboter les JO. En fait, c'est déjà le cas. Enfin, ils vont déjà se saboter eux-mêmes en préparant un événement comme celui-là. Et tout est prétexte, de toute façon, à utiliser des caméras, la vidéosurveillance, alors que, ça n'a jamais prouvé que ça servait à quoi que ce soit en termes de sécurité, quoi.
Oui, mais enfin, ça brûle, ce truc-là aussi. Hein.
Bah, surtout qu'en ce moment,
ça brûle pas mal.
On ne sait pas comment ça va évoluer, tout ça. Non, dans un bon sens. Peut-être qu'en fin de compte, il n'y aura pas de Jeux Olympiques, hein, 2024.
Ouais.
peut-être.
C'est cette facette d'accélération. On voit nettement que aussi avec les employés qu'ils ont sur les sentiers et tout, bon, il y a des pénibilités énormes que les gens ont vécu, quoi. C'est hyper compliqué en fait, parce que on voit des personnes qui travaillent sur les sentiers et tout, mais il y a eu des morts, il y a eu aussi tout le temps des blessés quand même, ça on n'en parle plus, voilà, c'est parce que les gens ils travaillent, bon, les travaux sont hyper pénibles et voilà, il y a personne qui pense à eux, qui voilà, et ça c'est à l'encontre de l'humanité en fait. C'est comme qu'on avait dit tout à l'heure concernant l'autre pays là qui avait organisé
le Qatar.
Le Qatar par exemple. Et là c'est, il va falloir
c'est pas le même rapport là. Je crois qu'il y a eu un mort déjà.
Sur les chantiers des JO, il y a pas eu de mort.
Il y a pas eu de mort.
Les chantiers du Grand Paris qui sont toujours à côté des JO, où il y a eu plusieurs morts déjà.
D'accord.
Depuis le début, ouais.
Donc c'est ça.
C'est pas la même proportion, mais enfin évidemment que c'est pas la même proportion, non, c'est incomparable.
Mais c'était pour ramener effectivement.
Mais par contre, la question de par exemple la pression du temps, c'est des énormes chantiers. Et par exemple sur il y a à Saint-Denis, il y a la tour Pleyel, ça va devenir un hôtel de luxe, voilà, pour les JO. Et sur l'entrée du chantier, en fait, il y a un compte à rebours avec le nombre de jours avant les JO. Enfin, pour vous dire, c'est tout le temps sous pression. Et après, on en parlera aussi, mais ça repose sur énormément de travailleurs sans papier, malgré la charte sociale qu'ont signé la Solidéo et le COJO, mais qui sont les organisateurs. Ouais. Voilà.
C'est une charte autour d'un petit cylindre en carton et qu'on accroche dans un petit endroit très intime. Parce qu'après, ils s'en servent pour autre chose, une fois qu'ils l'ont signé.
Ah ouais, il a un humour.
Ouais, je commence à comprendre.
Bah, on va faire une petite pause, hein, puisque le...
Mais c'est très intéressant, j'apprends des choses, hein, parce que là, moi, les JO, je déteste ça. Mais je déteste le sport, d'ailleurs, en général, de toute façon. Puis je déteste aussi toutes ces activités idiotes et inutiles. Contrairement à toi qui ne déteste pas les JO, mais je te ferai une liste un jour de ce que je déteste pas, tu vas aller courte. Mais oui, c'est très intéressant et terrible.
Alors, parce qu'on va avoir des villes toutes belles, toutes propres, faites au détriment de ceux qui les construisent.
Des yeux partout.
On va avoir une belle ville après. Oh,
cool.
Eh bien, on approche, messieurs, dames, il reste encore de la place. On ne se bouscule pas. Eh oui. Venez voir le grand musée parisien, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, allons-y, on approche, il reste encore quelques places devant. Mais on ne se bouscule pas, s'il te plaît, toi devant, tu restes tranquille. Merci, allons-y, c'est reparti. Venez voir les Parisiens en sirop musée Grévin. Venez voir les statufiés que l'on peut photographier. Venez voir le jardin Bobo, visiter nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris, devient un musée. Admirez les vieilles pierres, les vitrines sous réverbères. Venez voir Paris frivole qu'on a plongé dans le formol. Jetez-lui des cacahuètes sur les podiums de la mode. Et venez faire vos emplettes, Paris enlèvera sa robe. Paris, musée. Rien à craindre, tout est sécu, un poulet à chaque coin de rue. La vieille dame ne boit que de l'eau, bienvenue à la thalasso. Venez tous faire la fête à la maison de retraite. Une ambiance funéraire dans la grande ville aux lumières. Paris, musée. Paris, devient musée.
Allons-y. François, Lucas Tech Picture, Venez voir les Parisiens en cire au musée Grévin. Venez voir les statufiés que l'on peut photographier. Venez voir Jardin Bobo, visitez nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris devient un musée. Paris, musée. Paris, on va plus s'amuser.
Voilà, c'était Java qui nous interprétait Paris Musée. Voilà, voilà comment va devenir Paris, comment est déjà plus ou moins Paris, un musée ou destiné aux touristes, pour jeter des cacahuètes aux Parisiens qui restent, aux vieux.
Ouais. Les cacahuètes, je peux plus, j'ai plus de dents. Ouais. Ok, j'ai d'autres choses.
Bon.
Non, mais on a eu une discussion off là qui était intéressante. Et tu avais une rectification sur ce que j'ai dit à propos de vous étiez, vous avez des sensibilités autres. Je n'ai peut-être pas bien comprises concernant les Jeux Olympiques. Les miennes sont plus simples, donc beaucoup plus perceptibles par le commun. Je déteste tous les Jeux Olympiques.
Et les sportifs avec.
Et les sportifs avec. Et ceux qui les regardent. Et ceux qui les regardent et qui se viennent de brailler dans les stades.
Oui, ce que voulait dire Abdou, c'est que on peut être contre la manière dont on mène ces constructions, comment on finance ces Jeux Olympiques, ouais. Mais tu n'es pas contre le sport. C'est ça ou j'ai pas compris?
Bon,
oui,
vas-y, vas-y,
non.
Ouais.
Non, bah.
Attends, vas-y, vas-y.
Non.
Oui, bah en fait, on discutait du fait que être contre les Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça veut dire être contre tous les Jeux Olympiques, etc. Je voulais juste préciser quand même que Saccage 2024 a eu aussi une histoire dans cette. Dans ce rapport aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas nécessairement un discours qui rejetait complètement tous les Jeux Olympiques, aussi parce que les collectifs qui étaient présents avaient à la fois des sensibilités, mais surtout des stratégies différentes. Je pensais que ce n'était pas nécessairement très stratégique de se mettre en tant qu'anti-JO, par exemple, sur des questions d'urbanisation, de choses comme ça. Au bout de plusieurs années de lutte, on peut quand même dire que, assez rapidement, le discours du collectif, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de méga événements sportifs qui soient acceptables, en fait. Ça entraîne nécessairement ces destructions environnementales, ces destructions des conditions de vie. Les valeurs, en plus, qui sont entraînées du sport olympique sont hyper problématiques. Voilà, donc c'était aussi pour... on ne pense pas qu'il puisse advenir des JO... vert ou des JO socialement responsables ou des voilà.
Mais de toute façon même oui dans tout le sport hein. J'entendais il y a pas très longtemps. Enfin, je vous dis je peux faire une petite aparté. Là. J'ai entendu je sais plus sur France Info. Alors, une info comme ça sur le fait qu'il manque de l'eau. Tu vois que les nappes phréatiques ne se remplissent plus, donc ils font un petit reportage là-dessus. Et juste l'info juste après, c'est on injecte de l'eau dans les pistes de ski pour les jeux, c'était les jeux de je sais plus quand là, les derniers jeux qu'il y a eu, où ils injectaient de l'eau justement pour raffermir la neige, pour créer de la neige pour que les jeux puissent continuer. Donc il y avait dans un monde de schizophrène où il faut se préserver du gaspillage de l'eau, et puis de l'autre côté, pour les jeux, on gaspille de l'eau, on vide des nappes phréatiques. Donc, oui, il y a tout cet aspect, en fait, hein, dans ce que vous critiquez, dans ce que Saccage 2024 critique.
Puis la destruction.
Oui, donc la destruction de l'urbanisme, ou la construction d'un nouvel urbanisme destiné à une population qui n'est pas celle qui est la population locale d'origine. Et puis, ça cache aussi des ressources naturelles, parce que de toute façon, pour construire, même que le béton, il faut de l'eau, il faut tout ça.
Oui. Est-ce que ça veut dire aussi que les habitants de...
Comment il s'appelle? Compte sur tes doigts, c'est du mal.
les habitants de Seine-Saint-Denis, ils portent un nom, je
suis un peu... Les Dionysiens.
Ils vont donc être amenés à déménager, pour la plupart. Du coup, ça a été prévu? Est-ce que en fait, c'est de la déportation, quoi.
En fait, il y a des déplacements qui sont de plusieurs types. Il y a eu des expulsions déjà directes liées au JO. Je pense par exemple au foyer de travailleurs ADEF de 350 travailleurs migrants qui étaient à Saint-Ouen dans le foyer ADEF, qui ont été expulsés parce que ce foyer en fait était sur le terrain dans lequel ils sont en train de construire le village olympique. Pour l'instant, ils sont dans des préfabriqués en attendant qu'un autre immeuble soit construit, mais c'est qu'une partie d'entre eux qui va être relogée est bien plus loin en fait que là où ils habitaient depuis parfois jusqu'à 40 ans. Après, il y a des expulsions qui sont indirectes via la hausse des loyers. C'est déjà observable. Et évidemment, c'est pas les JO qui ont inventé le processus de gentrification. Ça vient clairement accéléré, relancé par exemple le Grand Paris, c'est pas un hasard si c'est pour 2024 et pas par exemple en 2028. Il y a eu une négociation entre Los Angeles et Paris, c'était vraiment dans l'idée de relancer le projet qui était un peu en train de tomber à l'eau du Grand Paris parce qu'il n'y avait pas assez d'investissement, etc. Et là, ça leur donnait une date butoir pour finir un certain nombre de constructions. Et après, il y a aussi des expulsions ou des déplacements qui sont... Pas directement dit, c'est pour les JO qu'on vous expulse, ou voilà, mais je pense au squat. Là, en ce moment, il y a Unibéton qui est un squat qui est proche du village olympique sur l'île Saint-Denis. Il y a plusieurs centaines de personnes qui habitent dans ce squat et ils viennent d'avoir un avis d'expulsion. Ils le leakent clairement à l'arrivée des JO dans un an, juste à côté de chez eux. Il y a aussi des camps de migrants, je pense, à côté du village, enfin de Arena, enfin de comment il s'appelle, le stade, enfin je sais pas comment ça s'appelle en fait, hein. C'est pas un stade mais c'est un
Arena,
Arena 2 ou Arena Adidas, ils l'ont appelé comme ça aussi, qui est à Porte de la Chapelle et qui est enfin il y a des expulsions de camps de migrants qui augmentent aussi. Il y a un peu une rumeur de faut que tout soit propre pour 2024 quand les médias internationaux auront le focus sur Paris et sur la Seine-Saint-Denis.
C'est un stade privé, ça, parce que c'est Adidas, c'est une marque de pompe.
Oui.
Ouais, c'est un stade privé, c'est ça.
Non mais c'est Arena 2 en fait.
Arena 2. Ouais.
C'est Arena 2.
Il a un autre, mais
il est... Oui, il a un premier quelque part alors.
Merci.
Ouais, je crois que c'est à Bercy le premier, ouais.
Palais Omnisports de Paris-Bercy.
Ah, d'accord. Et ça, c'est un privé aussi.
Ça est devenu, je crois, oui.
Je sais pas exactement. Ça va sans doute être pareil que les autres d'exploitation privée.
Ça m'a échappé quand même.
Ouais, je sais plus si...
Visiblement, oui, parce que le fait que ça s'appelle Arena, les hôtels...
La chaîne d'hôtels.
Ouais, c'est le groupe Accor, non, je crois. Accor Arena.
Accor Arena,
je crois, mais...
Ah oui, très bien. Oh putain, je suis largué, moi. Et bravo. Bravo. Ouais.
Et par rapport au travail aussi, on voulait aussi parler d'un autre truc qui se passe un peu en ce moment, c'est... parce que l'idée, encore une fois, le discours, c'est de dire que les JO, ça va créer de l'emploi en Seine-Saint-Denis, que ça va servir aux jeunes de Seine-Saint-Denis, créer des opportunités.
C'est le bruissellement par le haut, ça s'appelle en général. Plus tu vas construire des saloperies, plus les gens, ça va retomber sur les gens, les enrichir.
Ouais. En fait, en ce moment, depuis deux semaines, ils ont lancé une campagne de recrutement de 45 000 bénévoles pour les JO. C'est littéralement, faut candidater, passer faut faire un test, etc. Yes. Et on va avoir les réponses en automne. Et l'idée, c'est que en fait, les JO reposeront sur 45 000 personnes qui feront ce qui s'appelle du travail dissimulé. Ils reposent aussi sur le travail de milliers de services civiques dans un truc qui s'appelle Génération 2024. Donc en fait, l'État met à disposition des JO 10 000 services civiques par an. Pour promouvoir le sport olympique en Seine-Saint-Denis, mais aussi ailleurs. Et donc, voilà, si vous avez envie de candidater pour les Jeux Olympiques, c'est maintenant, ça s'arrête début mai. Et on vous propose, si vous êtes un peu flemmard, vous pouvez candidater et juste ne pas y aller au dernier moment. Vous pouvez y aller et faire une grève de zèle. Vous pouvez y aller et faire ce que vous avez envie de faire là-dedans. Voilà, si ça vous dit, on est déjà plusieurs milliers à avoir candidaté de cette manière.
Ah, 30 mètres de Sainte-Soline, vous pouvez toujours aller là-bas. Hein, ouais. Vous en avez des piscines à combler. Là.
Et les trois quarts de prix. Déjà. Bon. Ouais, est-ce qu'il y a eu des mouvements, il y a eu des mouvements de grève parmi les travailleurs du BTP depuis le début des chantiers, sur les conditions de travail ou sur les
Ça doit être assez difficile
parce que ça va être difficile. Déjà les majorité des personnes qui travaillent là-bas, la plupart c'est des étrangers ou c'est des personnes qui n'ont pas de papiers et sont pas censés à se revendiquer, à faire plein de choses, quoi, par mesure de représailles, plein de choses différentes, quoi. Donc du coup, c'est faute de cette liberté qui les pousse à subir et à continuer.
C'est pas pour rien qu'on emploie des personnes qui sont sans papier, hein. C'est parce qu'on sait qu'ils ont fermé leur gueule, ils sont là pour si tu l'ouvres, tu te vires, et puis avoir des recours, mais enfin bon.
Il y a quand même une. Enfin, on peut noter, c'est pas une grève, mais il y a eu une lutte, je crois que c'était il y a un an ou deux ans, où il y a plusieurs travailleurs sans papier sur le chantier du village olympique qui ont réussi à être régularisés avec une lutte syndicale sur place.
Il faut qu'ils arrivent à trouver une structure qui les accueille pour pouvoir les défendre.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'individuellement, comme ça. Individuellement, c'est pas facile.
Et c'est d'autant plus difficile que sur les énormes chantiers des JO, il y a plein de sous-traitants, en fait, donc qui travaillent pas tous pour les mêmes boîtes. Il y en a qui travaillent, qui sont en intérim, qui viennent là pour trois semaines, et puis après qui s'en vont. Enfin, voilà. C'est compliqué de s'organiser collectivement dans ces conditions.
Et oui. On connaît bien le problème. Malheureusement.
Et le chantier est censé s'arrêter l'année prochaine et tout doit être prêt pour quand d'ailleurs ? C'est quand les Jeux Olympiques ?
24.
C'est fin dernière semaine de juillet, première semaine d'août pour les Jeux Olympiques, dernière semaine d'août, première semaine de septembre pour les Paralympiques en 2024.
Bah, ils ont le temps encore. Mais là, ils nous font des belles routes aussi, hein, dans Paris, justement, en porte de la Chapelle, au Citier. C'est en train de faire la rénovation de voirie, là. Mmh. Puis des beaux... En fait, ils prévoient vraiment tout pour les touristes. Hein, parce que, je sais pas, moi, j'habite hein, côté de porte de la Chapelle. Entre place de la Chapelle et porte de la Chapelle, t'as pas beaucoup de gens qui utilisent des vélos. De toute façon, quand ils ont des vélos, ils sont sur la route. Enfin, sur la route avec les voitures. Là, on voit qu'ils font un beau tracé pour des pistes cyclables. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment pour les touristes qui vont venir se balader comme ça, quoi, pour aller rejoindre le centre de Paris, en fait. Je sais pas si... Non ? Ou alors, ça n'a pas de lien, mais je suis pas sûr, quand même.
Bon, mais cette tronçon-là... ne méritez pas d'attendre jusqu'à ce qu'on organise les Jeux Olympiques pour le faire, parce que là-bas, avec les boussons qui existent là-bas, ça n'existe nulle part dans les terres françaises.
Ah bah, tu m'étonnes qu'il y a des bouchons. Voilà. Tu réduis, tu es une deux voies, tu l'as réduit à une voie.
Ah, désolé. Eh,
forcément que tu as des bouchons.
Hein. Ah oui, ah oui.
J'y roule aussi là-bas.
Ah, c'est chiant. Hein. Parce que tu peux perdre une heure ou deux heures comme ça. Hein,
mais je sais bien.
Trajet. Donc du coup, c'est un peu chiant là-bas. Donc,
ouais, mais le but n'aura pas été... C'est les pistes cyclables qui posent problème. Je ne sais pas à qui ça sert. Si, moi, je vois des policiers qui les, qui, à un moment, qui les empruntaient justement pour aller plus vite, parce que comme c'était bouché, prenez les pistes cyclables à fond, avec la sirène. Mais peut-être pas justifié de faire des pistes cyclables pour les flics, quand même. Hein, il n'y a pas, quand même pas beaucoup de vélos. Hein, qui... Là, je travaille à Saint-Paul, dans le cœur de Paris. Donc, c'est, tu vois, c'est la rue Saint-Antoine, qui est rue de Rivoli. Là, tu as du vélo. Porte de la Chapelle, pas trop. T'as des voitures.
Oui.
Surtout que c'est le seul accès, un des seuls accès pour sortir de Paris. Donc. Bon, enfin bref. C'est une vaste escroquerie. Le maire de Paris se fait plaisir, à la maire de Paris, se fait plaisir avec ses constructions pour satisfaire son électorat écolo-bobo qui. Pour faire du vélo, mais en fait, ils habitent pas encore tout à fait là-bas, les bobos. Mais ça va venir.
Mais visiblement, le gouvernement actuel aussi, puisque la loi de sécurité dont tu parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été voté récemment, donc par le gouvernement machin chose. Là. Et que j'imagine que les Jeux Olympiques ont été décidés sous un gouvernement, un autre gouvernement antérieur, hein, dans les années, parce qu'il faut au moins 10 ans pour que telle décision soit prise et ensuite mise en musique. Donc voilà.
Mais les gouvernements, quel que soit le chef de l'État, ils ont intérêt à ce que de toute façon les Jeux se passent très bien, ils soient présentables.
Ouais.
Même si c'est pas lui, même si c'est pas Macron qui l'a décidé.
Ouais.
Lui, il veut que dans son pays, c'est son pays, hein, c'est pas le nôtre, c'est le sien.
Mmh.
Il veut que ce soit tout soit beau, soit propre. Et puis on espère que les ceux qui manifestent, là, en ce moment, ils vont arrêter. Hein.
Mmh.
De toute façon, on va tous être fichés.
Donc, enfin, est-ce qu'il y a des actions de votre collectif?
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de...
Mais non, qu'est-ce qu'il va nous en parler tout de suite?
Des actions. Parce que
vous faites beaucoup d'informations.
Ouais, vous
pouvez développer ça.
Ouais. Déjà, il a fallu que nous, on comprenne ce qui se passait. Enfin, parce qu'il y a la propagande du COJO, du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques, de la Solidéo, qui est la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, et puis des institutions publiques sur les JO, et puis il y a ce qui se passe réellement, et pour trouver les infos depuis quelques années, il faut faire de la recherche, quoi, d'informations. On a essayé de rassembler un peu tout ça sur un site internet, et après il y a des personnes aussi qui nous alertent, qui nous envoient des messages, des mails pour... je sais pas, récemment c'était la question des hôtels sociaux, et des hôtels sociaux qui sont en train de réduire leur place dans la perspective de 2024, donc il y a des places, des logements en moins en fait pour les personnes qui en ont besoin, qui à Paris en ce moment. Et ça, on essaye de rassembler, puis à la fois de diffuser tout ça à travers un peu tous les moyens qu'on peut, donc réseaux sociaux, manifs, perturbations d'événements, des stickers, des affiches, tout ce qu'on peut, des tracts, etc. Et des actions aussi qui peuvent être plutôt symboliques. La semaine dernière, c'était le blocage du centre olympique, du centre nautique olympique à Saint-Denis, pour dénoncer, à la fois, du coup, c'était dans le cadre du mouvement social actuel contre la réforme des retraites, mais aussi pour dénoncer les transformations de Saint-Denis et l'arrivée de la loi olympique 2, etc. Et puis après, il y a on soutient des contestations, il y a eu l'occupation des jardins ouvriers pendant quelques mois, des blocages de chantiers, plein des choses diverses de ce type-là, quoi.
Mais vous avez eu des coups de main des travailleurs de chez EDF, parce que je crois que le 8 mars, il y a eu une coupure sur le chantier. Enfin, ils ont dû avoir des groupes électrogènes sur place. Mais
Ouais, bah effectivement, ouais, y a des choses. Mais même le blocage du centre nautique, c'est l'interpro du coup syndical de Saint-Denis qui avait visé ce chantier des JO. Enfin voilà, il y a pas mal d'endroits en fait où ça. On n'est pas les seuls à lutter contre les JO, heureusement.
Bah il y a une prise de conscience générale. Et justement, bah c'est aussi parce que vous faites de l'information, c'est diffusé sur les réseaux sociaux, que puis on peut avoir prendre conscience de ce qui se passe et de s'informer des dégâts oui, Abdou voulait dire quelque chose.
Vas-y. Bon, en fait c'était juste pour rajouter d'après ce qu'elle a dit, y a plein d'autres organes qui se focalisent sur voilà sur cette lutte. Et vu qu'on a les mêmes idéaux et tout, donc on essaie de se tendre vers l'objectif final et voilà, d'essayer de faire des activités de part et d'autre pour pouvoir se faire entendre. Et
des activités en commun aussi.
Bah, oui.
C'est pas de part et d'autre, c'est moi qui comprends. C'est pas juste. C'est pas.
On se regroupe.
C'est pas individuellement, vous faites chacun votre truc dans votre coin, vous faites ensemble.
Oui, il y a des moments où on se regroupe ensemble, mais il y a des moments aussi où chaque organisation a ses propres, voilà,
propre itinéraire, hein.
Sa feuille de route et tout, quoi. Mais quand même, on se regroupe de temps en temps sur certains aspects et tout. Donc, voilà, ce que je voulais ajouter.
Mais c'est ce qu'il faut, c'est bien, ouais.
Je suis super intéressé, mais j'ai pas grand-chose à ajouter, on voit. Moi ça me dépasse l'olympisme, alors je sais pas, c'est un peu comme le sport, le foot. Ah ouais, c'est un autre monde, hein, par contre une pêche, une bêche, une pioche, tout ça, ça me parle davantage. Donc moi je sais, c'est assez terrible que le monde du travail, d'exploitation des travailleurs du BTP, notamment sans papier, ça c'est un. Bon, ça ressemble, c'est plus notre champ d'investigation, en tout cas en tant que syndicat. Et c'est terrible de ne pas pouvoir bloquer la construction. Moi, je rêve d'un blocage, d'un arrêt de construction.
Mais ce que me disent Nora et Abdou, c'est que plus tu te rencontres, plus tu travailles en commun avec d'autres personnes, plus tu peux discuter, réfléchir, agir. Effectivement, quand les travaux se font, d'abord les ouvriers ne sont pas forcément tous au même endroit, au même endroit, au même moment. Ils ne sont pas tous en contact. En plus, il y a la barrière de la langue aussi. Donc c'est difficile de. Et puis la situation sociale, hein, c'est sûr que si tu as été embauché. parce que tu es en quête de papier pour pouvoir travailler légalement et pouvoir vivre légalement. Déjà, effectivement, tu vas être un peu plus discret. Mais si tu es tout seul, parce que je pense que comme c'est des micros, enfin, c'est pas des micros, mais les entrepreneurs du bâtiment public, c'est pas forcément que des grosses boîtes Bouygues. C'est aussi des petits patrons. Donc, il y a peut-être un ou deux salariés qui travaillent pour un patron. Et c'est difficile à partir de là, que si tu n'as pas de contact avec les autres, de pouvoir réfléchir à comment fonctionne le système français, légal, au niveau du travail, du droit du travail, et de s'organiser.
C'est un peu la
plus facile quand on est 1000 ou quand on est deux.
C'est un peu la jungle, le monde du BTP, parce que les entreprises, en fait, même s'il y a le nom de Bouygues ou Dumez ou je sais pas quoi, Tartampion, en fait, c'est comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'il y a des succursales, il y a des filiales, il y a des donneurs d'ordre et puis des sous-traitants. C'est très complexe ensuite à parce que l'entité juridique, il y a 15 personnes, il y en a un certain nombre et on peut pas toucher tout le chantier souvent parce qu'il y a 10, 12 fois 15 personnes, quoi, dans des structures différentes qui appartiennent parfois à des champs de syndicalisation aussi différents. Oui, non, c'est compliqué.
Alors, tous ces travaux vont impacter. Alors, ça impacte ceux qui travaillent tout de suite pour la construction, enfin, qui travaillent sur les chantiers, pour la construction de ces structures sportives. Mais il y a aussi ceux qui vont. Je vois, c'est dans la loi Olympique 2, comme ça qu'on l'appelle. Sur l'aspect social, dont j'ai eu plusieurs articles. En fait, les commerces, une fois que ça sera donc opérationnel, il y a des commerces qui vont pouvoir ouvrir le dimanche. Donc, en fait, on leur offre une dérogation pour qu'ils puissent travailler 7 jours sur 7.
Zone touristique.
C'est magnifique.
Zone touristique.
En sachant aussi là qu'effectivement, ça sera sur la base du volontariat, des salariés qui vont travailler dimanche. Et ben, c'est le même problème qu'avec les travailleurs sur les chantiers. C'est quand des fois, tu as besoin de bouffer, ou tu es dans une petite boîte, tu peux pas trop dire à ton patron, non, je veux pas. Le patron va dire, ça justifie ta présence. Il y a une sorte de pression, en fait, morale ou en tout cas sociale, qui fait que les gens vont travailler les dimanches. Puis après, là, donc, on travaille les dimanches parce que c'est des zones touristiques. Et après, quand on aura pris l'habitude de travailler tous les dimanches, il n'y aura plus de zones touristiques. Mais bon, là, il y a une dérogation, effectivement, supplémentaire à ce qui est déjà en place dans des zones qui sont vraiment caractérisées zones touristiques. Ça vaut la coupe. Hein.
Mmh. Ah oui, donc c'est...
oui.
Donc le repos dominical est suspendu. Voilà, on va dire ça comme ça. 6 jours sur 7. 7 jours sur 7, pardon. Oui, si je t'ai coupé la parole.
Non, c'était un acquis de la restauration, je suis désolé, là ça ne va plus. Enfin. C'est...
Comment
c'est...
ça
ben, c'est un acquis de la restauration, le repos dominical.
La restauration alors... 1815
Oui.
Ah d'accord.
Eh ben oui.
Pas du secteur de la restauration.
Non, pas du secteur de la restauration.
Ah ouais, non, mais fallait chercher loin, Claire. Je connais, ça va.
Et puis après, tac, 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 Louis-Philippe, machin, ouais. Tout s'est tombé.
Mais je ne savais pas, en tout cas. Enfin, je ne sais pas si tu savais, Abdou, par rapport au dimanche. Mais au travail du dimanche, je ne savais pas.
Mais entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024.
Ok. Ouais.
Les commerces de détail seront ouverts en permanence dans les communes d'implantation des sites.
Okay.
Des communes limitrophes et celles situées à proximité des sites olympiques. Ainsi, le repos dominical est suspendu. Le repos sera pris par roulement. Mais bon.
Un dimanche par an.
Ouais.
Et puis, c'est appelé à durer. C'est-à-dire que ça, c'est une loi, une loi qui fait date. Et il est fort à parier, comme tu disais à l'instant, que. Bah, si ça marche bien et que s'il y a du tourisme, ça génère aussi. Et puis, les populations qui viendront, la gentrification, ça va permettre aussi de... ceux qui habitent les quartiers un petit peu vivants, etc., supporteront pas qu'il n'y ait pas de quoi faire des courses dimanche, par exemple. Mmh. D'aller acheter du pain, et puis après des fruits, et puis faire réparer sa bicyclette, parce que Porte de la Chapelle, il y aura des super pistes pour bicycletter. Mmh. Donc voilà, c'est juste un processus qui se lance.
C'est typiquement ce genre de choses que les JO... Enfin, quand on dit que les JO n'inventent pas tous ces processus-là, mais c'est vraiment des accélérateurs sur plein de choses. C'est que ça met des dérogations. Enfin, je pense aussi à la loi olympique 1, qui, celle-là, en fait, permettait en gros à... aux villes hôtes de contourner un certain nombre de droits en termes de démocratie locale. Déjà qu'il n'y en a pas énormément sur les constructions qui touchent à l'environnement et les constructions urbaines. En fait, comme les JO sont estampillés d'intérêt général, supérieur ou je ne sais pas quoi, en fait, ils peuvent, par exemple, il n'y avait plus besoin de faire des rencontres publiques ou des débats publics sur des constructions. Mmh. Ça pouvait tout être dématérialisé. En plus, il y en a eu plein qui ont été annulés avec le Covid, qui étaient par Zoom, etc. Enfin, en fait, les dates étaient raccourcies. Enfin, plein de choses qui faisaient que les droits de recours des gens qui habitent sur place étaient réduits. Et ce qui a permis de faire passer plusieurs projet d'urbanisme qui était en fait dans les placards depuis un moment. Je pense à la tour Pleyel, ça faisait un moment qu'ils voulaient en faire un hôtel, parce qu'il y a eu cette loi plus une autre loi juste après qui a étendu ce régime d'exception, on va dire, à distance, autour de des ouvrages olympiques. Ça a permis en fait de faire passer des choses qui étaient contestées depuis longtemps, des constructions qui étaient contestées depuis longtemps, comme à la tour Pleyel. Il y a aussi le village des médias construit sur le parc Georges Valbon à la Courneuve. Et donc par le droit aussi, par les changements législatifs, c'est aussi ça débloque des choses qui jusqu'à maintenant étaient quand même un peu des garde-fous. Et quand on parle de droit du travail, de droit démocratique au niveau ne serait-ce que local, et aussi de liberté par rapport à la sécurité, etc., ça débloque des choses. Et au passage, la loi olympique 1 aussi, pour info, elle a permis elle a fait que la France est devenue un paradis fiscal pour toute institution, toute organisation internationale sportive. Donc le CIO, en fait, ne paye pas ses impôts en France. Au passage, c'était intéressant.
D'ailleurs, le comité, le COJO, il n'y avait pas des scandales autour de son président lors de la préparation de la phase préparatoire? J'ai lu ça quelque part, mais c'est peut-être une...
Puis même si tu viens de l'inventer, on va dire que oui.
Des scandales financiers.
Non, oui. Non, je n'ai pas inventé, j'ai lu, je veux inventer, c'est méchant.
Oui. Et d'ailleurs, au Japon, ils sont en plein gros scandale financier lié aux JO. Ils ont accueilli les JO en 2021, donc ça devait être en 2020. Et là, la ville de Sapporo voulait être candidate pour les prochains JO d'hiver. Et en fait, il y a une telle, il y a vraiment un gros scandale de corruption lié au JO précédent que la mairie s'est retirée pour l'instant de la candidature parce que la population est hyper mobilisée sur cette question en ce moment.
Ah bah c'est une bonne nouvelle.
Mais vous allez voir qu'après de passer sur Radio Libertaire là, ça va foutre le feu. Hein.
Je retiens surtout que effectivement c'est au-delà de, il y a une espèce de convergence et je pense qu'il faut continuer à, c'est bien que vous soyez là du reste d'une excellente chose. On est tous sur des points de lutte qui sont pas forcément en éperonné, on n'est pas non plus tout le temps au courant de tous les points de lutte, mais il y a des convergences et des passerelles qui doivent se créer, parce que je pense que l'objectif c'est aussi d'arrêter le... Nous on est anti-parlementariste, enfin je parle pour moi.
Tu parles pour moi aussi.
Et pour lui aussi. Sans ces parlementaires, pas de loi olympique 1, 2, 3, 4, 12, 16. La démocratie locale, c'est une démocratie. Nous, on prône plutôt l'autogestion. Donc, c'est une démocratie directe où, effectivement, ça se établit sur un consensus, à condition qu'on prenne le temps de parler de tout et qu'on s'accorde. C'est piscine olympique ou petite piscine de quartier.
Moi, je dirais, en plus d'être anti-parlementariste, je suis aussi anti-étatiste. Parce que tu peux ne pas avoir de parlementaire dès qu'il y a un État. De toute façon, ça ne l'empêche pas, comme c'est le cas, justement, dans la loi. Donc l'article 19 habilite le gouvernement à agir par ordonnance en Outre-mer, puisque tu citais Tahiti tout à l'heure, à adopter la loi. Pour adopter la loi localement. Voilà, donc pour faire les aménagements autour du surf et on fait une ordonnance. Voilà, là, il n'y a même pas à discuter, à parlementer. Mais c'est parce que c'est loin, ils sont moins nombreux, donc ils se permettent tout ce qu'ils veulent. Les colons français. C'est une colonie, Tahiti, non?
Oui, on est d'accord. Voilà.
On aura un petit débat technique sur la différence entre l'État et le gouvernement, un jour.
Hein? Tiens, c'était une petite musique avant, avant de se faire une conclusion. Et puis après, on va passer à une ou deux infos. Non, ouais.
Bah si, bien sûr qu'ils ont eu certainement.
Vous voulez écouter une petite musique ou pas?
Oui.
Bon, vas-y, chef.
Dont les paroles feraient peur à Superbus. T'es pas c'est ton armure, la pierre ton carburant. T'es un peu à l'amour, ce que la paye ton Liban. Supporter, supporter, moitié homme, moitié canter. Supporter, supporter, quand l'on descend du singe, toi tu descends une pinte. Pendant les mois d'hiver, toi tu tricotes dans ton coin. Dépendant l'emploi de croix contre les consanguins. Les chômeurs pédophiles, les supporters d'en face. Avec toi la finesse voyage toujours en première classe. Le stade de haine est là, il n'en manque aucune. Dans cet entame du rage que vous appelez tribune. Supporter, supporter, moitié autiste, moitié 8-6. Supporter, supporter, quand l'homme descend du singe, toi tu descends de pinte. C'est pas vrai, si t'étais hooligan et bah tu parlerais en anglais. Toi tu es supporter du Renault maillot. Avec une belle écharpe pour les rhumes de cerveau. Plein de blancs par ton équipe, sous far crache dans ses poumons. Le racisme est un luxe en première division. Supporter, supporter, moitié bourrin, moitié Jeanlin. Supporter, supporter, quand l'eau descend du singe, toi tu descends trois pintes. Supporter, supporter, moitié connard, moitié Ricard. Supporter, supporter, quand l'homme descend du singe, toi tu descends ta pinte. Supporter, supporter, moitié homme, moitié canter. Supporter, supporter, quand l'homme descend du singe, toi tu renvoies une pinte.
N'hésite pas les colonies. Moi c'est nul et non avenu. Ça y est ? On est à l'antenne ? Ah bon ? Alors, en guise de conclusion à l'émission, puisque c'est moi qui suis tout seul au micro, c'est pas moi de parler, mais aux invités. Quel message délivrez-vous ce soir à tous nos auditeurs ? Ils sont des centaines de milliers à nous écouter. Y compris des écolos, que j'aime pas, mais c'est pas grave.
Bah, qu'ils nous rejoignent dans la lutte. Hein. Ça serait vraiment chouette de les voir parmi nous, parce que la lutte, elle est immensément grande. Donc, et on est engagé à vie pour, voilà, pour dénoncer les tares et les vices de cette société. Que, nous essayons quand même de faire notre mieux possible pour être voilà, droit au chemin et essayer de, voilà, de cumuler plein de choses et avec le temps et tout. Bon, ce n'est pas uniquement pour les JO, parce que les JO, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est là pour l'instant, mais après ça va passer. Donc on a d'autres luttes en tête et tout, donc ça continue. Donc on les invite vivement à nous rejoindre.
Voilà, alors pour prendre contact avec vous, on fait quoi ? On passe par Internet ou il y a une boîte postale, il y a quelque chose ? Comment on fait ? Dis-nous tout, Nora.
Il y a un site Internet, donc Saccage 2024, où vous retrouverez, on est sur, enfin on a un mail, saccage2024@protonmail.com, qui est marqué sur le site. Et après, on est sur beaucoup de réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Mastodon, Instagram et Telegram. Voilà. Il n'y a pas de lieu physique. On n'a pas encore de local.
Et il faut adhérer, il faut verser une cotisation, faire partie, ou vous fonctionnez totalement en bénévolat, il n'y a pas de...
Ouais, non, en fait, je n'ai pas été très claire. Donc, ça, c'est pour nous retrouver, nous envoyer un message ou quoi que ce soit. Après, sinon, donc c'est un collectif, ce n'est pas une association, il n'y a pas une structure juridique derrière. Donc, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de poste des personnes qui participent à Saccage. Il y a des réunions régulières, des réunions hebdomadaires, en fait, dans lesquelles on se partage les tâches. Voilà. Et puis... en fait, chaque mois, il y a une réunion d'accueil des nouvelles et nouveaux. Donc, on diffuse l'adresse sur tous nos réseaux. Et donc, si c'est la première fois que vous venez, vaut mieux venir à une de ces réunions d'accueil parce qu'on explique un peu plus précisément comment on s'organise.
Il y a un lieu on peut pas le donner à l'antenne, par exemple.
Si, on peut le donner. Enfin, en fait, c'est juste que ça change régulièrement. D'accord. C'est soit à la Bourse du Travail de Saint-Denis ou dans des squats dans Seine-Saint-Denis. Voilà, on est un peu dans les deux lieux. Et ça change, en fait. C'est pour ça que je peux pas donner le lieu.
D'accord.
Là. Mais c'est les jeudis soirs. Voilà.
Donc, pour prendre contact par Internet, pour avoir un contact physique après.
Oui, c'est ça. Les dates sont sur... et on a une newsletter aussi. Donc, et sur cette newsletter, on donne les rendez-vous.
La prochaine, c'est Place Beauvau. Quand on aura pris le ministère.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, on est en train de dire que... c'est une mobilette, là, qui démarre ou quoi,
hein, c'est un lion.
C'est un lion.
Oui, pour les JO, mon chat, il s'est dopé.
Bon, on fait une annonce rapidos. J'en ai donné qu'une.
Oui. Vas-y, donne.
Ça, on aura fait la boucle, pas la boucle olympique. Dimanche 9 avril à 16h, il y a une projection débat sur les bavures policières. On est des brutes, mais des brutes professionnelles, organisée par le groupe Ivry de la Fédération anarchiste. Voilà. Donc, c'est chez Publico. Et l'accueil, l'entrée est libre et l'accueil est à partir de 15h. Voilà, c'est tout ce que j'ai. À part la manif de...
Jeudi
6.
Jeudi 6.
Dont on ne connaît pas encore le... Vous participez aux manifs, vous, en tant que collectif ou non ?
Oui, on y va pour tracter.
Ouais.
Et puis, oui, on y va, quoi.
Bah, c'est bien.
Ouais. Je voulais juste ajouter un truc. On a beaucoup parlé de la Seine-Saint-Denis et de Paris, mais en fait, on peut lutter contre les JO ailleurs en France. Je pense... par exemple, la flamme olympique, elle passe dans plein de départements français. Il y a plein de choses à faire autour de ça. Il y a aussi des lois qui concernent tout le monde. On a parlé de la loi olympique 2. Enfin, les caméras de surveillance, la surveillance algorithmique, tout ça. Enfin, voilà. C'était aussi pour dire que là, le Saccage 2024, on s'organise en Seine-Saint-Denis, mais déjà on bouge parfois, on va rencontrer d'autres personnes.
Il y a des relais à Marseille, puisque tu nous as dit que...
Il y a des gens qui luttent, on essaie de faire de plus en plus de contacts à Marseille, ouais. Et aussi avec la région PACA, qui est candidate pour les JO 2034.
Encore, tous les 10 ans.
Voilà.
À nous faire chier que ça.
Donc il y a des personnes qui commencent à se mobiliser, parce que bon, là, on lutte contre des JO après que la ville ait été choisie. Et c'est les grandes victoires contre les JO, ça a été au moment de la candidature, avant que la ville soit...
Faire pression pour que justement que la ville revienne sur...
C'est ça.
C'est une décision. Voilà, on va être à la bourre encore. Donc, merci Nora, merci Abdou.
Merci.
Merci Eric. Merci la petite sirène dans son bocal là-bas.
Un autre de votre existence, ou même encore
ce générique. Une prochaine, peut-être, dans les manifs, en tout cas.
À jeudi.
Ciao à tout le monde.
Et d'un fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ciao. Je veux.
C'est que vous, partout, vous allez faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
head down.